En 79 de notre ère, au temps de l'empereur Titus, une ville qui s'appelle Pompéi, une ville romaine, a été ensevelie par une éruption du Vésuve. Et ce jour de 79, ce volcan qui gronde depuis plusieurs années déjà, explose. Et l'explosion est terrible. Il faut comprendre que Pompéi a été foudroyée par l'éruption. C'est-à-dire que en l'espace de 36 heures, ce sont des mètres de lapilli, c'est-à-dire de pierres ponces que projette le volcan, puis ensuite des nuées ardentes. Il faut comprendre ce que c'est. Ce sont des vents de 300 degrés peut-être à 200 ou 300 km/h qui figent la ville. Au lendemain de l'éruption du Vésuve, Pompéi est presque entièrement ensevelie. Un peu plus loin, Herculanum et Stabie ont quant à elles disparu sous la lave et la boue volcanique. Quelques jours après la catastrophe, l'empereur dépêche de Rome deux consuls pour qu'ils lui rendent compte de l'étendue du désastre. À Pompéi, seuls quelques édifices émergent du forum, le lieu le plus haut de la ville. On décide alors que la cité ne sera jamais reconstruite. Elle ne sera pas oubliée pour autant, car elle devient presque immédiatement et pour plusieurs siècles un vaste chantier de récupération de matériaux. Des pilleurs fréquentent régulièrement le site. Au XVIe siècle, un tunnel est creusé pour acheminer de l'eau potable. Mais Pompéi reste dans son ensemble caché au regard des hommes pendant plus de 1600 ans, jusqu'à ce jour de 1748, où l'on vint y exhumer des sculptures et des vestiges antiques pour décorer le palais du roi de Naples. Lorsqu'on la redécouvre au milieu du XVIIIe siècle, on la redécouvre en l'état où, en 79, elle était. Donc on est, au sens propre, dans un moment de révélation. Ce qui se révèle exactement comme un vieux négatif qu'on aurait retrouvé et que l'on révèle justement dans un bain. Ben, c'est une image qui est une image arrêtée d'un jour de 79 de notre ère où la vie urbaine s'est arrêtée à Pompéi. Peu à peu, la cité se dévoile aux yeux des fouilleurs que l'on ne peut pas encore appeler archéologues. Les maisons, le forum, l'amphithéâtre, les commerces, les fours à pain, en un mot, tout ce qui fait le quotidien d'une ville romaine semble se découvrir au fur et à mesure des dégagements. La mise à jour de l'enceinte de la ville, bordée de nécropoles, délimite un espace de plus de 65 hectares. Commence alors une autre histoire, celle de l'archéologie, mais aussi celle de la construction d'un imaginaire du monde romain qui voit dans Pompéi le modèle de la cité antique. Les images de Pompéi circulent en Europe et on se passionne pour les vestiges antiques. Le site, devenu parc archéologique protégé, devient le passage obligé des amateurs éclairés qui viennent y puiser inspiration et émotions romantiques. À partir de la fin du XIXe siècle, c'est le grand public qui se nourrit de cet imaginaire, notamment grâce à un roman historique, Les derniers jours de Pompéi, traduit dans toutes les langues et qui sera très vite adapté au cinéma. Les différentes versions du film mettent en scène une cité romaine idéalisée où les habitants coulent des jours heureux. Au cours du XXe siècle, les touristes vont chercher à Pompéi cette image rassurante de l'ordinaire des jours. On y mange, on y boit, on y prépare le pain. Voici ce que donne à voir cet imaginaire de carte postale. Voici ce que le décor urbain de Pompéi évoque encore aujourd'hui. Le visiteur contemporain met ses pas dans ceux de Stendhal, qui écrivait qu'on était à Pompéi face à face avec l'Antiquité. Les Romains sortent des livres pour devenir nos contemporains. Ils nous regardent et nous les regardons. Nous faisons également l'ascension du Vésuve jusqu'au cratère où les fumerolles témoignent toujours de l'activité du volcan. Puis, nous déambulons sur le site archéologique comme les 3,5 millions de visiteurs qui, chaque année, viennent confronter les images qu'ils ont déjà à l'esprit à la réalité physique du lieu, de ses édifices et de ses signes. Et donc, ce que l'on cherche à Pompéi, les touristes comme les historiens, c'est d'essayer de comprendre comment vit une cité romaine. Mais est-elle romaine ? Elle ne l'est pas tout à fait. Est-elle emblématique du monde romain ? Pas tout à fait. Au fond, si on veut faire l'histoire de Pompéi, au-delà effectivement de cet imaginaire, il faudra aller chercher ses singularités. Il faudra aller chercher, derrière les images de la vie quotidienne, une histoire. En 79, Pompéi est une ville de taille moyenne, d'environ 12 000 habitants, riche de sa production viticole et de sa place dans les échanges méditerranéens, mais qui ne connaît pas la prospérité de ses voisines, Cumes, Pouzolles, et encore moins de la ville nouvelle qui commence à dominer la région, Néapolis, la future Naples. C'est également une ville dont la vie depuis plus de 6 siècles a été rythmée par les influences des mondes avoisinants. Les Grecs, les Étrusques et finalement Rome, qui la conquiert au 3e siècle avant notre ère, en lui imposant son urbanisme monumental. Mais Pompéi ne devient officiellement une colonie romaine qu'en l'an 89 avant notre ère, après un siège conduit par les légionnaires du général Sylla et dont on peut voir encore les impacts de tirs de balistes sur l'enceinte. Donc, se constitue effectivement, sous nos yeux, une ville qu'on va dire romaine. Mais cette ville, elle n'est pas originellement romaine. Ceux qui habitent originellement à Pompéi sont les Samnites. Qui sont les Samnites ? C'est un peuple montagnard descendu des Abruzes et qui, d'une certaine manière, fait partie des différentes populations italiques. Ils ne parlent pas latin, ils parlent une langue qu'on appelle l'osque. Ils font donc partie du monde latin, mais d'une certaine manière en tant qu'ils sont eux-mêmes romanisés. Pompéi a donc adopté tous les attributs de la romanité. Son forum, son amphithéâtre, son urbanisme aux rues orthogonales, mais aussi son érotique et plus globalement sa culture visuelle. Mais là encore, on ne doit pas se laisser abuser par une lecture immédiate des signes et des images. Voyez cette fresque de l'amphithéâtre dans laquelle se battent des hommes en armes. On est tenté d'y reconnaître une scène typique de combat de gladiateurs. Mais élargissons un peu le cadre. On comprend alors que l'on se bat aussi en dehors des murs, dans les rues avoisinantes. En réalité, la fresque témoigne des émeutes qui, en l'an 59, avaient embrasé le quartier de l'amphithéâtre. Regardez également cet homme, dans lequel nous aimerions voir un boulanger à cause des pains posés à côté de lui. Sa toge nous indique qu'il s'agit en fait d'un notable et que le pain qu'il tend est sans doute un geste politique destiné à s'attirer le vote de ses concitoyens. Car juste avant le réveil du Vésuve, Pompéi était en pleine campagne électorale. Et les quelques 2600 graffitis qui s'étalent sur les murs des maisons datent, dans leur très grande majorité, des quelques semaines qui précèdent l'éruption. Donc, si on s'approche d'un peu plus près de toutes ces images qu'on nous présente comme de la vie quotidienne, du pain, du cirque, des graffitis, on retrouve, je dirais, une densité politique de la vie civile à Pompéi. Restituer la cité antique à son contexte politique et à sa dynamique historique, voilà le travail de l'historien, qui doit restituer toute l'épaisseur du temps. Transportons-nous vers le front de fouille. On y voit une stratigraphie où les couches superposées ne racontent pas la lente accumulation du temps. À Pompéi, les 4 à 5 mètres de matériaux qui recouvrent le sol de l'an 79 nous livre la chronologie de la catastrophe heure par heure. Une première couche de pierre ponce légère et blanche qui tombe après midi, pendant plusieurs heures, puis une seconde couche de lapilli mais plus sombre, et enfin deux strates superposées, plus solides, qui témoignent des 4e et 5e nuées ardentes sorties du volcan le lendemain, au petit matin. Voilà la signature de l'éruption de 79, que l'on retrouve près de 2000 ans plus tard comme une cicatrice à chaque endroit du site. Et c'est là, dans cette stratigraphie unique au monde, que les archéologues retrouvent les traces de la mort qui vient en ce jour de 79. Nous avons ici l'impression d'être, tout autant que dans un face-à-face avec Rome, dans un face-à-face avec la mort. Et les images de ces moulages de plâtre, que l'on commence à produire au milieu du 19e siècle, ont grandement participé à la popularité du lieu par le pouvoir de fascination qu'elles exercent. Cette émotion a une histoire. Elle date des années 1860. Elle est d'ailleurs contemporaine au fond de la révélation photographique. Parce que c'est d'une inversion dont on a à parler. C'est Fiorelli qui était l'archéologue en chef Pompéi qui a l'idée de couler du plâtre dans les cavités que laissent sous la cendre froide les corps décomposés qui y ont laissé empreinte. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un corps que l'on voit, mais son empreinte inversée, une absence qui prend corps. Nous pouvons voir dans les moulages de Pompéi une métaphore de l'archéologie et de la construction de la connaissance historique. Car le but de l'historien consiste toujours à accéder à un passé disparu. Et ces traces négatives sont désormais pour lui aussi importantes que les écrits et les témoignages sur lesquels s'est longtemps fondée exclusivement la recherche historique. Il y a un texte exceptionnel qui décrit l'éruption du Vésuve en 79 et qui la décrit si bien, d'ailleurs, qu'elle caractérise pour les vulcanologues, aujourd'hui encore, un type d'éruption. Pline l'Ancien est mort à Pompéi, ou en tout cas pas très loin, en 79. Et Pline le Jeune, son neveu, a raconté la mort de son oncle en 79 après notre ère. C'est dans une lettre adressée à l'historien Tacite que Pline le Jeune témoigne de la mort de son oncle. Il raconte que Pline l'Ancien s'est embarqué sur une galère depuis Misène, dont il commandait la flotte, à quelques dizaines de kilomètres de l'éruption, pour aller étudier au péril de sa vie ce phénomène naturel. Ce texte est très précis dans sa description de ce qu'a vu Pline, une nuée qui ressemblait très exactement à un pin parasol. C'est cela que les vulcanologues appellent aujourd'hui une éruption plinienne. Mais pourtant, l'auteur du document ne cherche pas à décrire une éruption, mais à convaincre son interlocuteur, Tacite, que Pline l'Ancien s'est conduit héroïquement en homme de science. Alors l'histoire de la transmission des manuscrits antiques et aussi l'histoire de leur déformation, donc on ne connaît évidemment pas l'original la lettre que Pline le Jeune écrivit à Tacite pour raconter la mort de son oncle. On connaît des copies de copies de copies. Et donc il y a des accidents de copies. Et un des principaux accidents de copies porte sur le jour exact de l'éruption. Parce que jusque-là, nous avons toujours dit un certain jour de 79 après notre ère. Mais quel jour ? Dans la plupart de ces témoins manuscrits, la lettre de Pline précise le 9e jour avant les calendes de septembre, soit le 24 août. Mais certaines copies disent le 9e jour avant les calendes de novembre, soit le 24 octobre. La tradition a toujours suivi la majorité des manuscrits, c'est-à-dire le